Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Il est 13h en temps universel, 9h à Port-au-Prince. On va parler de l'actualité d'Haïti et des Amériques jusqu'à 13h30, temps universel. Nous parlerons notamment de la situation en Haïti où les violences sont toujours quotidiennes. Les premiers ministres canadiens et français demandent le déploiement rapide de la mission multinationale de soutien à la sécurité. On y reviendra justement avec un responsable de l'organisation International Crisis Group. Nous reviendrons notamment sur les hésitations, sur les réticences du Kenya. On parlera aussi de cette polémique entre le Mexique et l'Équateur après l'arrestation d'un ancien vice-président équatorien au sein même de l'ambassade du Mexique. Et puis l'actualité des Outre-mer, comme chaque jour, Benoît Ferrand, vous nous parlerez d'une mission parlementaire qui est actuellement en Guyane. Elle est consacrée à la problématique de la démographie dans les Outre-mer.
Composée d'élus de Martinique, Guadeloupe et Wallis et Futuna, elle se penche sur le phénomène très inquiétant de la baisse de la population dans les territoires ultramarins.
Benoît Ferrand, on vous retrouve dans 20 minutes. Merci à tous d'écouter RFI, bienvenue. Mais d'abord, on va faire le point sur l'actualité internationale avec vous, Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Les tensions diplomatiques continuent de monter au Proche-Orient.
Oui, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Paris a demandé ce matin aux Français de s'abstenir impérativement de voyager dans les prochains jours en Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens. Paris, comme l'ensemble de la communauté internationale, redoute une escalade militaire dans la région. L'Iran promet des représailles depuis le raid du 1er avril contre le consulat iranien à Damas. Et ces derniers jours, Oriane Verdier, la tension semble être montée d'un cran.
Le président américain Joe Biden a réaffirmé mercredi le soutien inébranlable de son pays à Israël face à la menace d'une attaque iranienne importante. Le lendemain, les États-Unis ont annoncé restreindre les mouvements en Israël de leur personnel diplomatique et des membres de leur famille. Un général américain chargé du Moyen-Orient se trouve actuellement en Israël pour discuter avec les dirigeants militaires du pays. La question est de savoir quelle sera l'ampleur et la cible de cette riposte. Jusqu'à présent, les deux pays se sont affrontés indirectement sur les territoires d'autres pays en frappant le consulat iranien à Damas. Israël a ouvert la porte vers un conflit d'une autre dimension. Selon le Wall Street Journal, Israël se préparerait même à une attaque directe de l'Iran sur son territoire aujourd'hui ou demain. De son côté, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est entretenu avec ses homologues allemands, australiens et britanniques. Hossein Amir Abdollian a évoqué la nécessité pour Téhéran de répondre tout en cherchant à éviter les tensions et à ne pas élargir le champ de la guerre. Ces prises de parole multiples surviennent dans le contexte de négociations pour arriver à une trêve à Gaza. L'armée israélienne continue également ses bombardements et raids sur l'enclave.
Oriane Verdier vient de le rappeler, dans la bande de Gaza, les forces israéliennes continuent de mener des raids meurtriers. D'après le Hamas, elles ont aussi fait exploser dans la nuit des dizaines de maisons et de bâtiments résidentiels à Nousseirat, dans le centre de l'enclave palestinienne. 30 ans après les deux attentats les plus sanglants qu'ait jamais connu l'Argentine, la justice vient de désigner le coupable. C'est l'Iran qui aurait commandité dans les années 1990 les attentats contre l'ambassade d'Israël ainsi que contre les locaux d'Amia. C'est une mutuelle israélienne. Les précisions à Buenos Aires de Théo Conscience.
Pour la communauté juive d'Argentine, il s'agit d'une décision historique. La justice a estimé hier que les deux attentats les plus meurtriers de l'histoire du pays avaient été commandités par l'Iran, qualifié d'État terroriste, et exécutés par le mouvement chiite Hezbollah. Le 17 mars 1992, une camionnette remplie d'explosifs conduite par un kamikaze percute l'ambassade d'Israël à Buenos Aires et pulvérise l'école maternelle mitoyenne. Bilan, 29 morts et 242 blessés. Deux ans plus tard, le 18 juillet 1994, c'est l'AMIA, l'association mutuelle israélite-argentine, qui est visée par une attaque à la voiture piégée. 85 personnes sont tuées et 230 blessés. Hier, la justice argentine a estimé que ces deux attaques avaient été réalisées par le Hezbollah sous le mandat de la République islamique d'Iran. Dans leur décision, les juges établissent également qu'elles ont été motivées par la politique étrangère du président de l'époque, Carlos Menem. Les magistrats ont enfin qualifié l'attentat de l'AMIA en 1994 de crime contre l'humanité, ouvrant ainsi la voie à d'éventuelles poursuites devant la Cour pénale internationale. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Les relations se tendent entre la Chine et les États-Unis à propos des Philippines. La Chine a vivement réagi au sommet trilatéral organisé par Joe Biden à Washington en présence des dirigeants japonais et philippins. Le président américain s'est engagé à défendre les Philippines en cas d'attaque en mer de Chine méridionale. Mise en garde fustigée par Pékin pour qui ses actions dans la région sont, je cite, légitimes, légales et irréprochables. La Chine s'oppose fermement à tout comportement qui provoque et planifie des conflits. C'est ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Pékin.
La Cour internationale de justice saisie d'une plainte du Mexique contre l'Équateur.
Oui, les faits remontent à la semaine dernière. Policiers, forces spéciales et militaires avaient pénétré dans les locaux de l'ambassade mexicaine à Quito. Ils y avaient arrêté l'ancien président équatorien Jorge Glass, poursuivi pour des faits de corruption et auquel le Mexique avait accordé l'asile. Ses avocats accusent l'Équateur de violation de la Charte des Nations Unies, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du traité de Bogota. Correspondance à La Haye de Stéphanie Maupas.
Mexico demande au juge d'ordonner la suspension de l'Équateur des Nations Unies jusqu'à ce que Quito prononce des excuses publiques. Seule façon, selon le Mexique, de réparer le préjudice moral subi par le pays et le personnel de l'ambassade. L'adjoint de l'ambassadeur a été molesté lors de l'intervention armée dans la nuit du 5 avril, survenue après une série d'événements décrits par le Mexique comme des actes d'intimidation, mis sur écoute et course-poursuite contre le personnel. Cette partie-là de la procédure sur le fond pourrait prendre des années et en attendant, le Mexique demande au juge d'ordonner au plus vite à l'Équateur de protéger ses locaux diplomatiques ainsi que les biens et les archives qui s'y trouvent et d'y empêcher toute intrusion. Mexico demande aussi que l'Équateur le laisse venir nettoyer les locaux ainsi que les habitations privées de ses représentants alors que le Mexique a rompu ses relations diplomatiques après l'incident de la nuit du 5 avril. La réponse des juges devrait tomber rapidement. Stéphanie Mopala et RFI.
En bref, à présent, une partie des régions russes ainsi que le Kazakhstan frappées par des inondations historiques. Le niveau du fleuve Oural a déjà atteint un seuil critique. Il continue de monter dans la ville d'Orenbourg. Le président Vladimir Poutine n'a toujours pas prévu de se rendre sur place malgré la gravité de la catastrophe qui a entraîné des milliers d'évacuations ainsi que des protestations contre les autorités russes locales. La Russie encore elle soupçonnée de financer un réseau d'influence à Bruxelles, le siège des institutions de l'Europe des 27. À deux mois des élections européennes, le parquet fédéral belge a ouvert une enquête sur des soupçons de corruption d'eurodéputés. Et puis la Russie a convoqué l'ambassadeur de France à Moscou après les propos jugés inacceptables du chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné. Il avait estimé lundi que Paris n'a plus intérêt de discuter avec Moscou. En France, le ministre des Armées annonce le lancement d'une mission sur les violences sexuelles dans l'armée. Cette mission rendra son rapport fin mai. Son lancement intervient après une série de témoignages de militaires publiés récemment dans les médias pour beaucoup des cas de viol ou d'agression sexuelle. On parle en France d'un MeToo des armées, comme il y en a eu dans le cinéma, la politique ou le monde des sports. Si sa santé le permet, le pape François effectuera en septembre un grand voyage aux confins de l'Asie et de l'Océanie. 5 pays au programme, dont l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor-Oriental. Cette ambitieuse tournée devrait représenter un défi physique de taille pour le chef de l'Église catholique âgé de 87 ans et dont la santé est déclinante. Enfin, résultat de tennis, on connaît le premier demi-finaliste au tournoi de Monte-Carlo. C'est le grec Stefanos Tsitsipas, vainqueur ce matin du russe Karen Khachanov, 6-4, 6-2. Bonne journée sur RFI dans les médias, c'est en compagnie d'Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Nos auditeurs vous retrouvent tout à l'heure pour un prochain point sur l'actualité. Et nous, on va parler tout de suite de l'actualité des Amériques et en particulier d'Haïti.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
La transition politique peine à se mettre en place en Haïti, trop au goût des premiers ministres canadiens et français. Justin Trudeau et Gabriel Attal plaident ensemble en faveur de la mise en place du Conseil présidentiel de transition. L'information est rapportée par Radio-Télé Métronome. Et les deux chefs de gouvernement espèrent aussi que la mission multinationale de sécurité sera déployée rapidement. En attendant, les violences sont toujours quotidiennes dans le pays, en particulier dans la zone métropolitaine. On peut le lire dans la presse, Marine Lebègue, où l'on apprend l'attaque d'une école professionnelle à Port-au-Prince.
Oui, Anne, c'est le Nouvelliste qui nous l'apprend. L'établissement a été vandalisé méthodiquement, une salle après l'autre, détaille le journal. D'abord piller, puis mettre le feu. Des actes devenus la vie quotidienne de la capitale. France Duval Sénégal l'écrit d'ailleurs dans son éditorial. Les jours passent, Port-au-Prince s'habitue à toutes ces situations et le reste du pays est sur pilotage automatique. Pendant ce temps, les réserves alimentaires se réduisent. Gazette Haïti se fait le relais d'un communiqué du Programme mondial alimentaire. L'organisation craint que ses stocks ne soient épuisés d'ici la fin du mois, et ce, alors que l'insécurité alimentaire n'a jamais été aussi forte depuis le séisme de 2010, le souligne le communiqué.
Marine Lebeg, on vous retrouve dans quelques instants. Dans ce contexte que vous nous décriviez, très difficile en Haïti, des voix demandent donc le déploiement de la mission multinationale qui est attendue depuis plusieurs mois. La dégradation brutale de la situation à partir de la fin du mois de février a changé la donne. Le Kenya, qui devait en prendre la tête, a suspendu le processus jusqu'à la mise en place formelle et officielle d'une équipe de transition à Port-au-Prince. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le directeur pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe de l'International Crisis Group. Bonjour Nicolas Delaunay.
Bonjour.
Vous êtes directeur donc pour l'Afrique de l'Est et australe de l'ICG. Alors selon vous, le Kenya est-il toujours prêt à mener la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti ?
Le pays est prêt politiquement, on va dire, puisque le gouvernement a réitéré son engagement à participer et à mener cette mission en Haïti. Mais par contre, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est beaucoup plus de prudence, en fait, de la part du gouvernement kényan. Il y a deux dynamiques qui sont importantes à comprendre. C'est que, dans un premier temps, je pense qu'il y a une forme de prise de conscience de la part des autorités kényanes que le contexte haïtien est extrêmement complexe et finalement plus complexe que ce qui s'imaginait au départ. La deuxième dynamique, et je pense qui est liée, c'est qu'il y a un enjeu et un risque politique assez considérable pour le Kenya, c'est que cette mission se passe très mal. C'est une dynamique qu'on a pu voir lorsque le Kenya se déployait, et se déploie toujours d'ailleurs en Somalie, c'est quand les soldats kenyans reviennent dans des cercueils, eh bien, il y a un débat public très important sur l'utilité de se déployer en Somalie. Est-ce que le gouvernement prend les bonnes décisions à cet égard? Et le risque politique pour le Kenya dans ce déploiement en Haïti, c'est qu'il se passe exactement la même chose.
Il y a donc des précautions à prendre de la part du gouvernement kényan. Et puis on voit bien aussi que au niveau des policiers eux-mêmes qui devraient être envoyés, on a l'impression de percevoir certaines hésitations. En tout cas, c'est ce que disait la BBC récemment en expliquant que certains de ces policiers étaient en train en fait de changer d'avis et qu'ils refusaient d'aller en Haïti.
Les informations de la BBC, c'est difficile évidemment de les confirmer. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont crédibles. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'au moment où le Kenya accepte de déployer des policiers kenyans en Haïti, il y a une forme d'ignorance de la part de certains policiers kenyans vis-à-vis du contexte haïtien. Pour caricaturer, certains contacts qu'on a eus avec des responsables qui ont été chargés de briefer les policiers kenyans sur le contexte en Haïti, c'est qu'ils s'imaginaient aller passer quelques mois tranquillement sur une île des Caraïbes. Je force le trait, mais c'est l'impression qui était ressortie de ces discussions.
Est-ce que le Kenya envisage toujours, malgré cette situation, un déploiement dans les conditions qui avaient été envisagées initialement, ou est-ce qu'il pourrait y avoir des demandes supplémentaires qui seraient faites aux Nations Unies, ou alors davantage de renforts de soutien de pays étrangers, par exemple ?
On se souvient que le 12 mars, le ministre adjoint aux Affaires étrangères avait annoncé donc la suspension du déploiement, principalement en raison de la détérioration sécuritaire en Haïti. Depuis, il y a eu pas mal de discussions qui ont eu lieu en coulisses, notamment avec William Ruto. Et depuis, donc, le gouvernement kényan a réitéré cet engagement donc à se déployer. Ceci dit, le Kenya a également dit qu'il souhaitait qu'il y ait une nouvelle mission de reconnaissance en Haïti pour évaluer les conditions du déploiement. Donc je pense que c'est un signe pour moi que le Kenya se rend compte vraiment que la situation a énormément évolué et que les conditions en Haïti ne sont plus les mêmes. Ce qui est très important, c'est que maintenant les discussions entre le Conseil de transition qui sera peut-être formé dans quelques jours et les partenaires internationaux reprennent au plus vite. Après, ce déploiement n'aura pas lieu dans les prochaines semaines. Je pense que c'est illusoire de s'imaginer, au vu des obstacles techniques et opérationnels, c'est illusoire de s'imaginer que cette force sera déployée dans les prochaines semaines. Mais au vu de cet état de fait, ce qui va être très important aussi pour les autorités haïtiennes, c'est discuter avec leurs partenaires internationaux de la manière, finalement, des arrangements sécuritaires qui peuvent être pris en attendant le déploiement de cette force et qui pourraient notamment inclure un soutien logistique plus important à la police haïtienne.
Il y a quelque chose qui est aussi assez inhabituel pour une mission internationale, c'est que le Kenya actuellement exige le décaissement, la mobilisation de la totalité du financement qui a été exigé pour cette mission.
Exactement. Alors dans les procédures normales des Nations Unies, en fait, les Nations Unies fonctionnent par remboursement des dépenses plutôt que par une avance finalement ou par la mobilisation des fonds avant même le déploiement. Ça fait partie des questions opérationnelles qui doivent être résolues assez urgemment. Et donc en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut regretter finalement, c'est que ce nouveau type de mission à l'heure actuelle, c'est un processus qui est pas très très bien géré parce que finalement, les Haïtiens ont besoin de ce déploiement maintenant et à l'heure actuelle, ce déploiement est retardé principalement par des questions opérationnelles, techniques et financières.
Et en attendant que ces montants puissent être mobilisés, que le déploiement puisse avancer de manière concrète, donc le Kenya poursuit quand même la formation des policiers qui sont censés être déployés à Port-au-Prince et dans ses environs.
Voilà, c'est une formation qui est assez importante. Alors je pense que d'abord, il faut préciser que l'unité de police qui a été choisie pour être déployée, c'est ce qu'on appelle au Kenya la General Service Unit, le GSU, qui est une unité d'élite de la police kenyane. Ils sont généralement formés à l'étranger et ont extrêmement bonne réputation. Ceci dit, je pense qu'il y a une série d'éléments dans la formation qui vont être assez clés. Bon, d'un, se familiariser avec les spécificités du contexte haïtien, notamment le déploiement dans des zones urbaines extrêmement denses. Ça, ce sera clé. Après, des cours de français sont également très, très importants. Et puis, il va y avoir, selon moi aussi, une grande importance pour la formation sur les droits humains. Les précédents déploiements internationaux en Haïti n'ont pas forcément eu de fin très heureuse. Ça va être très important pour le contingent kényan d'établir en fait une forme de légitimité et une bonne relation avec la population.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Nicolas Delaunay. Je rappelle que vous êtes directeur pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe pour International Crisis Group. Merci.
RFI, la radio del mundo.
Direction maintenant le Mexique, où la colère ne retombe pas une semaine après l'arrestation d'un ancien vice-président d'Équateur dans les locaux de l'ambassade mexicaine.
Estos son los reclamos. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado.
La secrétaire des relations extérieures du Mexique, elle détaille la plainte déposée auprès de la Cour internationale de justice. Elle demande de déclarer que l'Équateur a violé ses obligations internationales, causé un préjudice au Mexique, exige que le pays soit suspendu des Nations Unies s'il ne présentait pas d'excuses. Et enfin, le Mexique demande des réparations. La presse du pays y revient largement, Marine Le Bègue, et elle se penche sur un autre point de la plainte déposée par le gouvernement mexicain.
Le Mexique accuse l'Équateur d'espionnage, titre El Sol de México. Dans la plainte présentée devant la Cour internationale de justice, le gouvernement mexicain assure que son personnel diplomatique a été espionné avant l'assaut de l'ambassade de Quito, écrit le journal. L'Universal a pu consulter la plainte et a fait état d'un véhicule suspect. Il aurait pris en filature la voiture d'un membre du personnel de l'ambassade, tournant au même coin de rue. Et quand ce dernier est finalement sorti de sa voiture pour confronter son traqueur, raconte El Universal, celui-ci a pris la fuite. Le journal rapporte aussi la présence d'un véhicule militaire garé devant l'ambassade mexicaine pour écouter les conversations téléphoniques. Et les diplomates mexicains assurent que pendant l'assaut des policiers équatoriens, leur téléphone mobile ne fonctionnait plus. Selon les experts interrogés par El Sol de México, cette plainte pourrait prendre des mois, voire des années à être traitée.
En Argentine, la presse revient sur une décision de justice concernant un événement qui avait choqué le pays tout entier il y a 30 ans. Deux attentats antisémites, ils avaient fait 114 morts à Buenos Aires. Jamais le pays n'avait connu d'attaque aussi meurtrière. Et hier, donc, la justice a désigné un coupable, le Hezbollah libanais, mandaté par l'Iran. Marine, la presse argentine parle d'une sentence historique.
Oui, c'est Clarine qui l'écrit. Une sentence qui aura un impact mondial, anticipe le média, car elle qualifie l'Iran d'état terroriste et d'auteur d'un crime contre l'humanité qui pourra donc être puni dans n'importe quelle partie du monde et sans limite de temps, précise le journal.
En revanche, un autre média argentin remet en question cette décision.
Oui, selon Paris Nadossé, les accusations contre l'Iran se basent sur des rapports des services de renseignement et sur des témoignages d'opposants au régime iranien. Aucune preuve catégorique, écrit le journal, car personne n'a été identifié, ni ceux qui ont fourni l'explosif, ni ceux qui ont acheté le camion, ni celui qui l'a conduit jusqu'au lieu de l'attentat. Paris Nadossé affirme que les juges ont suivi l'alignement de Javier Milei avec les États-Unis et Israël. Cette sentence n'est donc rien d'autre qu'une offrande de l'Argentine aux États-Unis et à Israël, commente le journal, selon lequel elle sera inévitablement exploitée dans leur guerre contre l'Iran.
RFI,
The World's Voices.
Les journaux américains reviennent, eux, aujourd'hui sur le décès d'une personnalité clivante, O.J. Simpson. D'abord star du football américain, puis jugé au cours d'une des affaires judiciaires les plus médiatisées des dernières décennies.
O.J. Simpson, in a knit cap, from two blocks away, is still O.J. Simpson. It's no disguise, it's no disguise, it makes no sense, it doesn't fit, if it doesn't fit, you must acquit.
Jugé pour le meurtre de son épouse et de son amant, vous entendiez à l'instant l'avocat d'O.J. Simpson. Il avait été acquitté grâce à cette phrase devenue célèbre que vous venez d'entendre. Si ce n'est pas la bonne taille, vous devez l'acquitter. Référence à un gant qui avait été retrouvé sur les lieux du crime. O.J. Simpson avait 76 ans et la presse revient sur sa vie tumultueuse, Marine.
Oui, plusieurs journaux en font leur une, dont le New York Times. Le quotidien revient en détail sur la vie de la star et s'attarde sur la médiatisation extrême de la vie d'O.J. Simpson.
Dans la vie et les épreuves qu'il avait rencontrées, la télévision était un projecteur, un microscope et un miroir. Écrit le New York Times.
O.J. Simpson était une créature des médias, c'était l'un des Américains les plus vus de l'histoire, peut-on lire dans le journal. Tantôt héros en superstar du football américain, tantôt criminel. Le journal évoque la fameuse course-poursuite sur l'autoroute entre la police et O.J. Simpson, alors accusé du meurtre de sa femme. Un épisode filmé en direct par la télévision, tout comme le procès qui l'a suivi. Dans sa renommée et son infamie, écrit le New York Times, il était un de ces exemples que la célébrité peut faire d'une personne et un symbole de ce que les médias peuvent faire d'un pays.
Marine Lebeg, revue de presse à retrouver sur internet comme tous les jours, RFI.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
Une mission parlementaire consacrée à la démographie dans les Outre-mer est en ce moment en Guyane.
Composée d'élus de la Martinique, de la Guadeloupe et de Wallis et Futuna, elle va se pencher sur le phénomène inquiétant, très inquiétant, de la diminution de la population dans les territoires ultramarins. Reportage en Guyane, bien sûr, Emma Chevalier.
Dans certains territoires d'outre-mer, la démographie chute de façon drastique. La Martinique, par exemple, a perdu plus de 20 000 habitants entre 2015 et 2021. En Guyane, la population croît, mais la jeunesse aussi a tendance à partir. Élie Califère, député de la Guadeloupe.
Les jeunes de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, de Saint-Martin, c'est la même chose. Les salaires ne sont pas attractifs. Il y a aussi un problème de loisirs, de culture. Nos jeunes veulent, disons, être des citoyens du tout monde.
Pour les députés, il faut travailler sur les questions de sécurité, d'attractivité et d'augmentation des salaires. La formation est aussi un vivier pour attirer la jeunesse. Giovanni William est député de la Martinique.
Il faut plus de moyens permettant au centre de formation d'attirer les jeunes. Ça aussi, c'est important. Et puis, il y a les filières de demain aussi qui nécessitent aussi un accompagnement et puis une publicité particulière.
Les conclusions de cette mission parlementaire doivent être rendues d'ici septembre.
Direction la Martinique avec un tout autre sujet, tout aussi inquiétant, l'épidémie de dengue qui ne faiblit pas. Claude Gracien.
La circulation de la dengue se maintient à des niveaux élevés. Depuis plusieurs semaines, les cas évocateurs fluctuent, mais ils tournent en gros autour des 150 par semaine. On a recensé la semaine dernière 13 passages aux urgences. Il y en avait eu 8 la semaine précédente. 2 personnes ont dû être hospitalisées. En tout, depuis le début de l'épidémie, 29 cas graves ont été enregistrés. Les services de réanimation adultes et pédiatriques ont été sollicités. Les données sont en cours de consolidation, explique Santé publique France. Depuis le début de cette épidémie, 9 personnes classées comme cas graves sont décédées. 6 de ces décès sont directement liés à la dengue et 3 autres sont le résultat d'autres complications liées à l'infection.
Claude Gracien de la Première Martinique, un mot pour terminer de l'opération PlaceNet XXL qui s'est déroulée mercredi dans un quartier de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Le bilan est désormais connu. Une interpellation pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance, une procédure de travail dissimulé, une procédure de fermeture administrative engagée et enfin une infraction douanière pour contrebande de tabac. Bon après-midi, bon week-end. Anne, à lundi.
Merci Benoît Ferrand et bon week-end à vous aussi. À lundi donc, même heure, même endroit.
Vous écoutez RFI Midi.
Comme chaque vendredi à 7h06, je vous propose à présent un récit de la campagne électorale aux États-Unis en musique avec l'universitaire Lorik Enton. Il n'est pas seulement spécialiste de la politique américaine, il a aussi coécrit un livre, une encyclopédie quasiment sur la musique des États-Unis. Et aujourd'hui, il vous emmène découvrir la Pennsylvanie avec Julien Coquelleroy.
Bonjour Lorik Enton.
Bonjour.
Philadelphie, c'est la plus grande ville de l'État de Pennsylvanie, le Keystone State, l'État clé de voûte. Il sera clé pour le scrutin présidentiel, mais aussi l'état de naissance de Joe Biden. Elton John chantait à sa gloire, c'était en 1975. Oh, liberté de Philadelphie, brille sur moi. Envoie ta lumière à travers les yeux des laissés pour compte, si on traduit à peu près les paroles d'Elton John en hommage à une ville réputée pour la richesse de son histoire.
Ah oui, Philadelphie est fondée par les Quakers à la fin du XVIIe siècle, et c'est même plus qu'une ville, parce qu'à l'origine c'est un projet politique qui est fondé autour du principe de tolérance religieuse, et Philadelphie, le nom Philadelphie, veut dire la ville de l'amour fraternel. Ensuite, Philadelphie, c'est avec Boston le cœur de la révolution américaine. C'est évidemment là qu'est rédigé la déclaration d'indépendance qui est proclamée le 4 juillet 1776. Ça fait donc de Philadelphie une ville historique particulièrement importante avec des institutions culturelles à l'avenant dont certaines furent fondées par Benjamin Franklin au milieu du 18e siècle et elles sont toujours là. Et ça explique cette association de Philadelphia avec Freedom, comme la cloche de la liberté devant laquelle on peut toujours se recueillir au Liberty Hall. Et l'ironie de la chanson d'Elton John, c'est qu'elle n'évoque absolument pas les libertés de la Révolution, mais le nom d'une équipe de tennis dans laquelle joue son ami Billie Jean King.
Alors vous parliez notamment de la cloche de la liberté. Philadelphie attire plus de 40 millions de touristes chaque année, mais ce n'est pas pour autant un musée à ciel ouvert.
Ah oui, alors Philadelphie, alors qu'on appelle Philly, c'est une ville plutôt ouvrière avec une forte communauté noire. Et c'est là par exemple qu'un boxeur amateur s'entraîne en montant les marches d'un musée pour réaliser son rêve, un rêve américain. C'est le premier Rocky et c'est en 1976. Coïncidence, oui. Je ne crois pas. Toujours au cinéma, Philadelphie, c'est aussi le décor d'un drame sur fond de sida et de discrimination dans les années 90, le film Philadelphia, dont la BO est signée Bruce Springsteen. Alors, la ville n'a pas le monopole du drame. L'État de Pennsylvanie a toujours été connu pour ses ressources souterraines et son industrie. Le charbon ici, l'acier là. Acier dit crise et désindustrialisation massive, notamment à Bethlehem et à Allentown, chanté non pas par Bruce Springsteen pour une fois, mais par Billy Joel.
Alors ici, Billy Joel chante et nous attendons ici à Allentown, mais ils ont enlevé tout le charbon du sol et les syndicalistes se sont enfuis. Aujourd'hui, on parle forcément de moins en moins de charbon. Le grand enjeu énergétique, c'est la fracturation hydraulique et le gaz de schiste.
Oui, alors dans l'ouest de l'État, c'est le grand espoir en matière d'emploi, à moins évidemment que les démocrates et leur réglementation environnementale tatillonne viennent contrarier ce nouveau rêve pennsylvanien. La Pennsylvanie a été remportée par le natif de l'État, Joe Biden, en 2020. Et en revanche, en 2016, c'est Donald Trump qui s'est imposé face à Hillary Clinton.
Et une fois n'est pas coutume, il y a une belle histoire.
Et oui, et cette fois, c'est à Pittsburgh. Alors, Pittsburgh a longtemps été la capitale de l'acier. C'est une des plus grandes métropoles industrielles du 19e siècle. Et elle s'est effondrée dans les années 1970-80. Mais elle a su se réinventer. C'est pas toujours le cas. Notamment grâce à la fondation Carnegie Mellon et ses millions de dollars, mais également grâce à ses universités. Et c'est aujourd'hui un haut lieu de la robotique avec également un hôpital universitaire de premier plan.
Lorik, la Pennsylvanie, ce n'est donc plus un lieu que l'on quitte aujourd'hui.
Et non, comme le routier chanté ici par Taj Mahal, la chanson Six Days on the Road, c'est pas un lieu qu'on quitte, mais c'est plutôt devenu un point de convergence, notamment d'étudiants et de chercheurs venus du monde entier.
Six Days on the Road, Taj Mahal, et merci Laurie Kenton. On vous retrouve vendredi prochain pour découvrir en musique un autre état clé de la présidentielle américaine, celui de Géorgie.
Notre chronique en musique sur la présidentielle aux États-Unis. Merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi à 11h, temps universel. Et tout de suite sur RFI, vous avez rendez-vous avec Catherine Fruchon-Toussaint. Très bonne journée à tous.